Voilà, je vous invite à la prière. Éternel, Dieu souverain et tout-puissant, notre Dieu, nous voulons témoigner à la suite de la lecture de ce psaume et du chant de ce cantique que tu nous réjouis par ce que tu fais. Et ce matin, nous voulons acclamer avec le psalmiste les œuvres de tes mains et proclamer très haut, Seigneur, que tes œuvres sont grandes et que tes pensées sont profondes. Oh oui, Éternel, lorsque nous considérons ta création, lorsque nous considérons, Seigneur, ton œuvre de salut pour nous, lorsque nous considérons ta bienveillance à notre égard, lorsque nous considérons ta personne révélée par l'Écriture sainte, et bien d'autres choses encore qui nous parlent de tes bontés, nous sommes émerveillés, Éternel, de voir ton œuvre, ta fidélité, ta grandeur, ta souveraineté et ta toute-puissance. Il est vrai que, Seigneur, si nous considérons les événements de nos vies ou les événements du monde, en ne tenant pas compte de toi, il y a de quoi désespérer, tourner des regards inquiets, Seigneur, et de craindre quant à l'avenir. Mais dès lors, Éternel, que nous considérons l'histoire de l'humanité, en voyant, Seigneur, ton œuvre, en considérant ce que ta parole nous dit et nous apprend de toi, de ta création, Seigneur, et de ton intervention dans l'histoire des hommes, et du fait éternel que tu es le Dieu passé, présent et futur, que, Seigneur, quelque événement qui se passe, tu en es le souverain maître, et tu peux dire jusque-là et pas plus loin, alors, éternel, nos cœurs sont paisibles. Seigneur, nous ne vivons pas dans l'inquiétude, même si nous sommes parfois dans la tristesse. Nous nous confions en toi, et nous considérons les événements de nos vies avec paix et même avec joie. Et ce matin, ensemble, nous voulons te rendre grâce, te louer et te bénir. Et Seigneur, les paysages de ce matin enneigés nous conduisent justement à cette louange et cette adoration. Car nous voyons, Seigneur, par le témoignage, Seigneur, de ta création, par les saisons que tu donnes, qui se succèdent, Seigneur, les unes après les autres, et qui toutes portent ta marque, celle de ta fidélité et de la grande bonté, intelligence, sagesse qui est la tienne, nous voyons, éternel, que tu es un Dieu fidèle et que tu es un Dieu merveilleux. Tel est le constat éternel ce matin de notre part. Et éternel, notre Dieu, nous te prions pour ceux qui peut-être sont éprouvés et ont de la peine justement à s'écrier ce matin. Seigneur, combien tu es fidèle et bon pour ceux qui ont peut-être de la peine à se réjouir dans ce que tu fais, ceux qui sont éprouvés de différentes façons. Nous te demandons, éternel, qu'au sein de leur épreuve, quelle qu'elle soit, eh bien, Seigneur, tu puisses les remplir de ton esprit et de ta paix, et qu'au sein, éternel, de ces difficultés, de ces épreuves angoissantes qui les tourmentent, éternel, ils puissent regarder à toi, Seigneur, et dès lors que l'on tourne nos regards vers toi, nous dit ta parole, on est rayonnant de joie, et donc qu'ils puissent rayonner eux aussi. Ah oui, éternel, Dieu tout-puissant, que les nôtres, nos frères et sœurs qui nous sont chers, ceux de notre assemblée qui sont éprouvés, que les frères et sœurs avec lesquels nous sommes en communion, que nous ne connaissons pas à la surface de la terre, mais qui t'appartiennent, éternel, et qui vivent dans l'épreuve, soit ce matin, dans cette journée si particulière, renouvelés, encouragés et bénis. Bénis ton Église, ô notre Dieu, vraiment qu'elle puisse être encouragée et édifiée par les différents cultes qui seront donnés, qui se sont déjà donnés et qui se donnent actuellement. Bénis notre monde. Nous le remettons entre tes mains avec tous les habitants de cette terre et les autorités que tu as placées, Seigneur, dans les différents pays qui existent. Et nous te demandons vraiment que ta paix soit sur ce monde. Et nous te demandons tout particulièrement que le message de l'Évangile puisse être répandu. Et nous pensons, éternel, aux pays en guerre et te demandons vraiment que tu accordes aux autorités en place beaucoup de sagesse. Et que, Seigneur, tu mettes fin à bien des tourments et bien des injustices. Ô notre Dieu, ce matin nous confions finalement ce culte, ce temps, dans ta présence éternelle, maintenant dans ce lieu, devant toi, nous te le confions vraiment précieusement, te demandant que, Seigneur, tu te fasses connaître à nous par ta parole, une fois de plus ce matin, que tu nous enseignes, personnellement, mais surtout en Église, car c'est en Église que nous nous présentons devant toi, en tant que corps, en tant que famille éternelle. Et nous te demandons vraiment que tu sois au milieu de nous, et que nos regards se tournent vers toi, que tu te fasses connaître à nous par ta parole, lue, prêchée, chantée, et que nous puissions répondre à cette parole par nos chants, par nos prières, par, Seigneur, une attention particulière, par une réflexion intelligente aussi en lien avec ta parole annoncée. Et que, par la puissance de l'Esprit Saint, tu transformes nos vies, et que nous puissions ensuite, dans cette journée, cette semaine, rayonner dans le monde dans lequel tu nous as placés. Ô Éternel, vraiment, nous nous attendons à toi et te bénissons car nous savons que tu es au milieu de ton peuple, de ton Église, quand elle se réunit en ton nom, quand elle s'attend à toi. Béni sois-tu pour ta grande fidélité, ta bonté, ta présence et ta bienveillance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles dans le premier livre de Samuel. Nous allons lire le chapitre 25. Donc, nous continuons d'avancer dans la série de prédications sur le roi David. Et ce matin, nous lisons donc ce chapitre 25. Samuel mourut. Tout Israël se rassembla pour ses funérailles et on l'ensevelit dans sa maison à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme qui avait ses activités à Carmel. C'était un homme considérable qui avait 3000 moutons et 1000 chèvres. Or, il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses moutons. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaïl. C'était une femme de bon sens et fort belle, mais l'homme était dur et mauvais dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses moutons. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel. Vous irez chez Nabal, vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, que la paix soit avec toi, la paix avec ta maison, la paix avec tout ce qui t'appartient. À présent, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous, nous ne leur avons rien fait de vil et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes jeunes gens, ils te le déclareront. Que mes jeunes gens obtiennent donc ta faveur, puisque nous venons pour un jour de fête. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce que tu as sous la main. » Lorsque les jeunes gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David ? Et qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'évadent de chez leur maître, et je prendrai mon pain, mon eau, et la viande que j'ai débitée pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens dont je ne sais même pas d'où ils sont. » Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent, et à leur arrivée lui rapportèrent toutes ces paroles. Alors David dit à ses hommes, « Que chacun de vous mette son épée à la ceinture. » Et ils mirent chacun leur épée à la ceinture. David aussi mit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint faire un rapport à Abigaïl, femme de Nabal. « Voici que David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces hommes ont été très bons pour nous. Nous n'avons subi aucun outrage, et rien ne nous a été enlevé, tout le temps que nous avons fait route avec eux, lorsque nous étions dans la campagne. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître le petit bétail. » Maintenant, tâche de reconnaître et de voir ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et lui, c'est un vaurien, impossible de lui parler. » Abigaïl prit vite 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons apprêtés, 5 mesures de grains rôtis, 100 paquets de raisins et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et dit à ses jeunes gens, « Passez devant moi, je vous suis. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendait par un versant de la montagne, et voici que David et ses hommes descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien à tort que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu fasse ceci aux ennemis de David et qu'il ajoute encore cela si je laisse subsister jusqu'au matin le moindre de tout ce qui appartient à Nabal. » Lorsqu'Abigaïl aperçut David, elle descendit vite de l'âne, tomba et se prosterna en présence de David, la face contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce vaurien de Nabal, car il est comme son nom, il s'appelle Nabal et il y a chez lui de l'insanité. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les jeunes gens que mon Seigneur envoyait. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es vivant, c'est l'Éternel qui t'a empêché d'en arriver au crime et d'assurer toi-même ton propre salut. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Maintenant que le cadeau que ta servante apporte à mon Seigneur soit distribué aux jeunes gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera très certainement à mon Seigneur une maison stable, puisque mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Qu'on ne trouve donc jamais le mal en toi. Si un homme se dresse, te poursuit et en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera gardée à l'abri parmi les vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. Mais l'âme de tes ennemis, il la lancera au loin comme avec une fronde. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a promis et qu'il t'aura établi conducteur d'Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni mauvaise conscience d'avoir répandu le sang inutilement et d'avoir voulu assurer lui-même son salut. Lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, tu te souviendras de ta servante. David dit à Abigaïl, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour d'en arriver au crime et d'assurer moi-même mon propre salut. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël est vivant, c'est lui qui m'a empêché de te faire du mal. Si tu n'étais vite venu au-devant de moi, d'ici à la lumière du matin, il ne serait pas resté le moindre de ceux de Nabal. » David prit des mains d'Abigaïl ce qu'elle lui avait apporté et lui dit « Monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Abigaïl arriva auprès de Nabal et voici qu'il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi. Il était gai et même complètement ivre. Elle ne lui raconta rien du tout jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Il reçut un coup au cœur et il devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et dit « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans le déshonneur que m'avait infligé Nabal et qui a tenu ton serviteur à l'égard de la méchanceté. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. » David envoya proposer à Abigaïl de la prendre pour femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigaïl à Carmel et lui parlèrent ainsi. « David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour femme. » Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit « Voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Abigaïl se releva vite, monta sur un âne, et, accompagnée de 5 jeunes filles, elle suivit les messagers de David et devint sa femme. David avait aussi pris Ahinoam de Jizréel, et toutes les deux furent ses femmes. Or, Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïr. Voilà donc la parole de Dieu, chers frères et sœurs, qui sera prêchée dans quelques instants. Que notre Dieu bénisse sa parole. Voilà, chers amis, Saül est encore roi d'Israël, et même si officiellement les conflits avec ses voisins sont réglés par son armée, on constate dans ce chapitre 25 que David et ses 600 guerriers, guerrilleros, combattent en coulisses dans le désert de Paran, c'est dans le nord, au nord-ouest du Sinaï. Ils combattent pour préserver les bergers israélites des attaques de tribus isolées. Et dans le texte que nous venons de lire ce matin, nous sommes en pleine période de tonte pour ces bergers. Et généralement, à ce moment-là, selon l'usage en vigueur, eh bien, les bergers, les propriétaires de troupeaux, les éleveurs, réservent une partie de leur richesse, une partie du profit qu'ils vont assurer ou qu'ils ont déjà assuré, un certain pourcentage de ce qu'ils ont gagné, ils l'utilisent ou ils le donnent à ceux qui ont protégé leurs troupeaux et qui permettent, par cette protection, la pérennisation du cheptel en Israël. Il n'y a pas de police, disons, l'armée du roi Saül est là pour gérer les problèmes, les conflits avec les troupes extérieures, mais quand il s'agit de troupes bédouines qui attaquent les bergers, eh bien, il n'y a pas un service de gendarmerie, de police qui existe, et ce sont donc des mercenaires qui agissent, et c'est en l'occurrence le travail de David et de ses 600 hommes à ce moment-là. Et David et ses hommes s'attendent donc, au moment de l'attente, à recevoir une partie du profit de ce fameux Nabal, dont ils ont protégé les troupeaux pendant plusieurs semaines. Et donc, apprenant que celui-ci vient de commencer cette tonte, David envoie quelques-uns de ses hommes, ils s'approchent de lui et vont, comme nous l'avons vu, lui demander ou lui réclamer légitimement leur dû. Mais malheureusement, ils sont tombés sur un homme mauvais, particulièrement injuste et méchant. Et celui-ci refuse donc de leur rendre le fruit de leur travail. Quelle est la réaction de David ? Bien, devant une telle injustice, il prend la décision de se venger en détruisant non seulement cet homme, mais tout ce qui lui appartient, ses troupeaux, ses bergers, ses serviteurs, sa femme, etc. Et fort heureusement, comme nous l'avons constaté dans ce texte, comme nous l'avons lu il y a quelques instants, l'intervention providentielle d'Abigaïl, l'épouse de Nabal, arrête David dans cette mission vengeresse, dans cette mission armée. Alors il est une chose qu'il est important de souligner, de remarquer, d'ores et déjà, chers amis, quand on considère le chapitre 24 et ce chapitre 25, donc le chapitre 24 que nous avons vu il y a deux semaines en arrière, il est intéressant de noter qu'alors que dans le chapitre 24, c'est David qui a dû arrêter le bras vengeur, enfin si ce n'est vengeur, du moins le bras armé de ses hommes, quand Saül était à leur merci dans la grotte, eh bien là c'est l'inverse. David veut se venger de cet homme et tout détruire, et c'est la femme de Nabal qui intervient et qui stoppe son bras, afin qu'il ne commette pas l'injustice. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas à David de se faire justice. Ce devrait être au roi Saül, et nous savons que malheureusement le roi Saül est ennemi de David. Mais cette femme intervient et empêche donc David de verser le sang innocent. Voilà donc un point important à souligner. Ce n'est pas celui sur lequel nous nous arrêterons, mais il est suffisamment important donc pour être souligné ce matin. Cet épisode, je dirais dramatique, mais on peut dire aussi romanesque de la vie de David, nous permet par contre de découvrir deux personnages, deux personnes au caractère et aux réactions, vous l'avez remarqué, très contrastées. Il s'agit des deux membres de ce couple, Nabal et Abigaïl. Et ce que nous pouvons dire ce matin, et ce que nous allons voir ensemble, c'est que ces deux personnes illustrent parfaitement, et l'une et l'autre, cette double humanité qui existe depuis le commencement, presque, depuis Genèse chapitre 3 ou Genèse 3:15, dès après la chute de l'homme. Deux postérités, deux humanités. C'est ainsi que Nabal représente la postérité du serpent, donc toujours selon Genèse 3:15, c'est-à-dire cette humanité qui, depuis le début, depuis la chute, s'oppose à Dieu par tous les moyens possibles. Et puis il y a Abigaïl, qui elle représente la postérité de la femme, selon cette promesse de Genèse 3:15, qui annonçait la venue du Messie, avec deux postérités, celle du serpent, celle de la femme, et de la postérité de la femme sortirait le Messie. Eh bien Abigaïl représente cette postérité de la femme qui symbolise tous ceux qui, dans l'histoire de l'humanité, eh bien, se sont attachés à Dieu et ont désiré, et avec son aide, ont accompli sa volonté et ont marché selon ses plans et selon ses préceptes. Le titre de ma prédication est celui-ci ce matin, « Un couple, deux humanités ». Et dans les quatre points de ma prédication, nous allons parler de la bienveillance. Nous allons voir qu'il y a vraiment une bienveillance que l'on retrouve régulièrement dans ce chapitre. Tout d'abord, premier point, la bienveillance envers un fou. Ensuite, deuxième point, la bienveillance rejetée. Troisième point, la bienveillance reconnue. Et enfin, dernier point, la bienveillance envers le juste. Tout d'abord, donc, le premier point, la bienveillance envers un fou, ce sont les versets 1 à 9. Donc je l'ai souligné il y a quelques instants, David a fait preuve de bienveillance en protégeant les troupeaux de Nabal au moyen de ses guerriers. Et c'est ainsi que, comme nous l'avons découvert dans ce texte, comme cela est souligné par David, mais aussi par le serviteur qui vient rencontrer Abigaïl, eh bien les hommes de David ont veillé jour et nuit, la nuit peut-être par un froid piquant, la journée par une chaleur étouffante, pour protéger le cheptel, le riche cheptel de cet éleveur qui est Nabal au sein de ce désert du Sinaï. Et en agissant ainsi, David et ses hommes ont non seulement préservé, mais surtout permis l'enrichissement de ce Nabal. Et ainsi donc, je le répète, lorsque David envoie réclamer une marque de reconnaissance de la part de Nabal, ce n'est que justice, au vu de l'investissement des hommes de David, mais aussi lorsque l'on considère les bénéfices qui ont été engrangés par cet éleveur, parce que les hommes de David ont protégé son cheptel. Chers frères et sœurs, David, par la protection bienveillante et l'accroissement des richesses qu'il accorde à Nabal, alors que David finalement ne lui doit rien, illustre de la meilleure des façons la protection et la bienveillance de Dieu à l'égard de tous les hommes ici-bas. Et je vous rappelle à ce propos les paroles de l'apôtre Paul. Lors d'un de ses voyages, de son deuxième voyage, il parle aux habitants de Lystre, il parle aux habitants d'Athènes, et il montre comment Dieu fait preuve de grâce, de bienveillance et de protection à l'égard de tous les hommes. De tous les hommes, ceux qui le craignent comme ceux qui ne le craignent pas, à l'image de Nabal. Je cite, et il parle aux habitants de Lystre, « Dieu ne cesse de leur rendre témoignage de ce qu'il est par ses bienfaits. Et écoutez bien en pensant au monde dans lequel nous vivons. En donnant du ciel les pluies, on pourrait dire la neige aujourd'hui, et les saisons fertiles, en comblant les hommes de nourriture et de bonheur. Aux Athéniens, il dit ceci, « En lui, tous les hommes ont la vie, le mouvement et l'être. » Il est bon de citer notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui dit ceci à ses disciples à propos de son Père. « Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Et puis, évidemment, il est juste de citer David lui-même dans les psaumes 145 et 147 qui parle de cette bienveillance, de cette bonté de Dieu à l'égard de l'humanité. Psaume 145. « Les yeux de tous espèrent en toi. » Et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Psaume 147. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Nous voyons non seulement la fidélité de Dieu à l'égard des hommes, mais la fidélité de Dieu à l'égard de toute sa création. Voilà donc, chers frères et sœurs, la bonté providentielle de Dieu à l'égard de toute créature ici-bas, et en particulier à l'égard de l'homme, et en particulier à l'égard de tous les hommes. Paul nous dit encore dans le chapitre 1 des Romains, et nous allons reprendre les Romains et le chapitre 2 en particulier, Paul nous dit à propos de cette bonté de Dieu, qu'elle fait partie de ces perfections invisibles de Dieu. Ces perfections invisibles de Dieu, mais qui se voient fort bien lorsqu'on considère ces perfections depuis la création du monde dans tous ses ouvrages. Voilà la bienveillance de Dieu révélée à la création et révélée en particulier à l'humanité par cette protection, par ces grâces qu'il se plaît à distribuer avec abondance et avec générosité. Et n'oublions pas que souvent, lorsque cette abondance manque, c'est très certainement dû et très souvent dû au péché et à la folie de l'homme. Ainsi donc, chers frères et sœurs, chers amis, à l'instar de Nabal qui aurait dû répondre avec générosité à la protection et à la bienveillance de David qui a gardé ses biens, qui a permis l'accroissement de ses biens, eh bien chaque être humain ici-bas, je dis bien chaque être humain, juste ou injuste, devrait glorifier Dieu et lui rendre grâce pour les soins généreux qu'il reçoit de lui jour après jour, ainsi que pour la patience dont il fait preuve à son égard. Et permettez-moi de vous dire ce matin que tel est votre devoir, tel est notre devoir journalier, chers amis, tel est le devoir de chaque chrétien, c'est-à-dire de remercier Dieu, de regarder sa vie, Certes, il y a des épreuves, il y a des douleurs, il y a des souffrances, il y a des luttes, mais il y a aussi de la part de Dieu une réelle bonté, une réelle fidélité. Mais nous avons tellement tendance à regarder tout ce qui nous manque et à oublier tout ce que nous recevons comme si ça nous était dû. Et mes amis, si nous considérons les grâces de Dieu, sa protection, sa fidélité, sa patience à notre égard, ce qui est un devoir de notre part, voilà, je vous le rappelle, la source de ce qui manque dans notre monde, c'est le contentement. Permettez-moi d'y revenir, puisqu'on en a parlé déjà cette année dans le message de cette série. Deuxième point, la bienveillance rejetée. Ce sont les versets 10 à 14, mais aussi les versets 21 et 22. Nous l'avons vu tout à l'heure, Nabal, loin de remercier David et les siens, en partageant avec eux un peu, non pas tout, mais un peu de ce qu'il vient de gagner, les rabroue au contraire. Et non seulement il les rabroue, mais il le fait en les considérant comme des inconnus. En les considérant comme des inconnus, alors que, en bon éleveur, qui fait bien son travail, puisqu'il tient assez bien, il sait pertinemment que depuis des mois, ses bergers sont protégés. D'ailleurs, le serviteur le dit. Il l'a averti. Nabal, il sait que David les a gardés, mais on ne peut lui parler de rien. Il sait très bien que ses troupeaux sont protégés. Il s'en est accommodé fort bien pendant des mois, mais lorsqu'il s'agit de rendre un peu de ce qu'il a gagné à ses hommes qui l'ont protégé, plus personne n'existe, bien au contraire. Il les traite même comme des esclaves révoltés et comme des voleurs. Et l'auteur nous dit qu'il agit à la hauteur de la signification de son nom en faisant ainsi. Son nom, c'est Nabal. Et comme nous le dit Abigaïl, d'après l'auteur, Nabal signifie fou. Cet homme est un fou. Cet homme est un insensé. Ça ne veut pas dire qu'il est simple d'esprit. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. C'est un homme intelligent. Mais dans les Écritures, le fou est présenté comme celui qui décrète volontairement qu'il n'y a pas de Dieu. Voilà qui est Nabal. C'est un fou dans le sens que c'est un homme qui ne craint rien ni personne, et surtout pas Dieu. Et pour lui, Dieu n'existant pas, il est son propre Dieu. Et il vit en conséquence. Il est au centre de sa vie, au centre de son affaire, de son troupeau, de son cheptel, et au milieu de ses esclaves, de ses serviteurs, de sa famille, et il vit en véritable Dieu. Mais l'Écriture nous dit encore que c'est un homme dur. Le terme hébraïque signifie plutôt « entêté et belliqueux ». Et il est même précisé, pour couronner le tout, qu'il est méchant dans ses actions, c'est-à-dire qu'il est malhonnête. Enfin, ça tombe un peu sous le sens de ce que nous venons de voir ensemble. Alors voilà Nabal, chers frères et sœurs, chers amis, un homme moralement, socialement, spirituellement, fourbe, trompeur, égoïste et injuste. Un homme qui ne vit que pour lui-même, qui est son propre roi, son propre Dieu, qui ne vit que pour sa réussite sociale, qui ne vit que pour la jouissance de ses biens, pour posséder toujours plus, mais ça ne suffit jamais, il faut continuer de posséder un peu plus, qui ne vit que par amour pour son ventre, un être aussi sensuel. D'ailleurs, il est révélateur de considérer qu'il va mourir après une orgie. C'est à la suite d'une orgie, il se réveille, il a mal à la tête, son foie peut-être le tourmente, sa femme lui dit qu'elle vient de lui sauver sa vie, il fait une crise cardiaque et il périt aussi misérablement qu'il a vécu 10 jours plus tard. Chers frères et sœurs, comme je vous le disais en introduction tout à l'heure, Nabal est à l'image, et réfléchissez bien à ce que je vais dire, et vous le savez certainement, force est de le constater, qu'on le veuille ou non, Nabal est à l'image de l'humanité déchue au sein de laquelle nous vivons, qui se prend pour la mesure de toute chose, qui rejette Dieu et finalement ne vit ni plus ni moins que pour elle-même. Et c'est ainsi que la jouissance effrénée, je dis bien effrénée, je ne dis pas qu'il n'y a pas de possibilité de jouir des choses que Dieu nous donne, mais la jouissance effrénée sans limite des sens. Le désir inextinguible de posséder toujours et encore plus. La soif de paraître, d'être aux yeux des autres sont les seuls buts de l'humanité déchue. Depuis Genèse 3 jusqu'à aujourd'hui, mais le spectacle nous en est offert aujourd'hui. Et pourquoi? À cause du rejet de Dieu. Pourquoi? Parce que notre humanité a pris la place de Dieu, ne veut pas de Dieu, et veut faire d'elle-même son propre Dieu. Paul, toujours dans le chapitre 1, auquel je faisais référence tout à l'heure, nous rappelle la réalité de la vanité des pensées et de l'existence des nabals de notre société, dont nous faisions partie, hein, ne nous leurrons pas, n'ayons pas un regard condescendant à l'égard de cette société dont nous faisions partie, et travers dans lesquels nous pouvons encore tomber aujourd'hui en tant que chrétiens. Donc Paul nous rappelle la réalité de la vanité de leur pensée lorsqu'il écrit ceci. Ils sont donc, écoutez bien, en pensant à Nabal et en pensant à la société dans laquelle nous vivons, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Écoutez bien, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Chers amis, je pose la question ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui vit à l'image de Nabal pour sa gloire, ses biens, son ventre, ses sens, qui est son propre Dieu, qui a mis le moi sur un trône et qui tourne autour de ce trône, qui s'agenouille devant lui et lui offre toutes sortes de victimes ou d'offrandes. Quelqu'un qui, quoique confronté régulièrement à la bienveillance, à la fidélité, à la bonté de Dieu à son égard, se comporte comme s'il n'existait pas. Si tel est le cas, eh bien, permettez-moi de lire cet autre avertissement solennel de Paul, un tout petit peu plus loin, dans le chapitre 2 des Romains. Il écrit ceci à ceux qui vivent comme des Nabals aujourd'hui. Écoutez bien, méprises-tu les richesses de sa bonté, de toutes les grâces que Dieu te donne, jour après jour? Ça, c'est moi qui le rajoute. De son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. C'est une interpellation solennelle, terrible, mais pleine de grâce et de bonté, qui dit à un homme, mais arrête de vivre pour toi-même, considère toutes les grâces de Dieu et repens-toi pour ta méchanceté. Car un jour elle viendra et elle tombera. Et d'ailleurs, force est de constater que Nabal a connu la colère de Dieu à cause de son endurcissement. Puisque lorsque sa femme, je vous l'ai dit tout à l'heure, vient lui annoncer qu'elle a sauvé sa vie ainsi que tous ses biens en faisant ce qui est juste, eh bien cet homme fait une crise cardiaque, tombe et fait une agonie de 10 jours, eh bien il périt lamentablement. Et voici ce qu'écrit David dans le chapitre que nous venons de lire à propos de la mort de cet homme. « L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. » Nabal n'est pas un pauvre innocent qui subit les foudres et les colères d'un Dieu parfaitement injuste. C'est l'inverse qui est vrai. C'est qu'il y avait un Dieu bienveillant, juste et bon, qui donnait avec abondance et qui attendait en retour, eh bien, la reconnaissance, l'adoration, et qui n'a reçu finalement que l'ingratitude, la méchanceté, la dureté, le rejet, etc. Et voilà donc comment la colère de Dieu a commencé à frapper Nabal, et je dis bien à commencer, parce que ce fut pour lui le début des douleurs. Et chers amis, cette mort pathétique illustre donc fort bien la suite de la mise en garde de Paul que nous avons lue tout à l'heure et qui s'adresse à ceux qui, comme Nabal, rejettent Dieu, ne veulent pas de lui, affirment, comme Nabal disait, « Qui est David ?» Vous connaissez un David? Je n'ai pas vu de David. Donc ceux qui, comme lui, disent « Dieu ?» Non, Dieu n'existe pas. Et Paul dit « Mais qu'à cela ne tienne, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. » Dieu rendra à chacun selon ses œuvres la vie éternelle à ceux qui cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité, mais la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Chers amis, c'est une réalité, force nous est de le constater une fois encore, notre monde est rempli de Nabal. Nous étions des Nabal, nous aussi, autrefois. C'est-à-dire d'hommes et de femmes qui disent ne pas connaître Dieu. Qui est Dieu? Non, il n'y a pas de Dieu. Notre monde est moralement, socialement, spirituellement fourbe, trompeur, égoïste, injuste, préoccupé par son ventre, ses biens et sa gloire, Alors, chers frères et sœurs, chers amis, vous qui êtes là ce matin, j'aimerais tout simplement, en conclusion de ce deuxième point, vous exhorter ainsi, avec l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et même vous qui appartenez au Seigneur, mais qui êtes si souvent séduits par la folie de ce monde et par les nabals de ce monde. Prenez donc garde que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tout aussi tentant que cela soit, ne ressemblez pas à Nabal, qui s'écriait, nous l'avons lu tout à l'heure, « Mon pain, mon eau, ma viande, celle que j'ai débitée pour mes tondeurs, parce qu'il est encore dit, et c'est le Seigneur Jésus qui dit ça à ses disciples, mais que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? » Mon troisième point, la bienveillance reconnue. Ce sont les versets 23 à 31. Nous venons de voir Nabal, son injustice et sa fin dramatique, à la hauteur du nom qu'il portait. Mais grâce à Dieu, nous voyons aussi dans ce chapitre 25 qu'il n'en est pas de même de sa femme Abigaïl. Après avoir entendu le rapport de son serviteur, elle comprend la faute de son mari et dans ce qu'elle entreprend fait preuve de bon sens, de courage, de justice, d'humilité, de foi, de sagesse et de loyauté à l'égard de son mari. Ce qui n'est pas la moindre des choses. De bon sens, pourquoi ? Parce qu'ayant appris le grand malheur qui se prépare, elle va précéder David et ses troupes. Elle va aller au-devant de lui avec des présents en grand nombre. Et elle fait un petit peu, comme nous l'avons vu, pour vous qui suivez fidèlement les études sur la Genèse, nous l'avons vu de la part de Jacob à l'égard d'Ésaü, mais de la part de Jacob à l'égard du premier ministre d'Égypte, qui n'est autre que son fils, mais il ne le sait pas. Comment ? Eh bien, avec bon sens, quand il s'agit de rencontrer ces hommes qui sont en colère ou qui semblent être en colère, eh bien, il envoie des biens, en espérant que ça apaise un petit peu leur âme. Eh bien, elle en fait de même, avec beaucoup de bon sens. Mais elle fait preuve de courage, parce qu'il en faut. Il en faut pour une femme qui, à la place de son mari et contre l'avis de son mari, va au-devant de 400 hommes armés et en colère, parce qu'ils ont été bafoués et rejetés, méprisés, humiliés. C'est ce que dit David à la fin de ce chapitre. Elle fait preuve de justice, parce qu'elle va donner à ces hommes ce qu'elle leur doit, ce qui leur revient de droit pour leur protection fidèle. Mais elle va aussi, et c'est ce qui est extraordinaire, à la place de son mari, demander pardon pour la faute commise. À moi la faute, mon Seigneur, et un peu plus loin, mais je n'ai pas vu les jeunes gens que mon Seigneur a envoyés. Et puis voyez l'humilité de cette femme, qui se prosterne devant David, qui par 6 fois se nomme sa servante, et par 13 fois l'appelle mon Seigneur. Et enfin la foi, dans les versets 29 à 31, à contrario de son mari qui a méprisé, rejeté David. David, non, non, j'ai jamais entendu parler. Elle, au contraire, reconnaît l'onction royale et le règne glorieux qui l'attend bientôt. Et disons encore qu'elle fait preuve de foi lorsqu'elle se confie en lui, lorsqu'elle lui confie sa vie en lui disant ceci, « Lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, tu te souviendras de ta servante. » Et enfin, je vous le disais, ce qui n'est pas la moindre de ses vertus ou de ses qualités, la loyauté de cette femme à l'égard de son mari. Elle le reconnaît devant David, c'est un fou, mais elle est loyale. Elle aurait très bien pu profiter de ce moment pour lui donner des biens, lui dire « si vous pouviez en plus éliminer mon mari, ça serait parfait ». Comme ça, tout serait bien. Au contraire, elle sauve sa vie. Elle ne le trahit pas pour s'en débarrasser, mais elle va tout faire pour le sauver. Et regardez la bienveillance de cette femme qui attend le matin au réveil, qu'il se lève pour lui dire « je t'ai protégé » ou « j'ai fait le nécessaire, tes affaires sont sauvées et ta vie avec elle ». Que de grâce chez cette femme. Est-ce qu'elle n'est pas exemplaire ? Voilà les épouses que tous les maris aimeraient et que le Seigneur nous a données. En fait, chers frères et sœurs, les nombreuses vertus que nous découvrons ici devraient nous caractériser en tant qu'enfants de Dieu. Je vous rappelle que Abigaïl représente très certainement cette postérité de la femme. Ces vertus devraient nous caractériser en tant que chrétiens. L'adoration de cette femme envers David préfigure la légitime adoration qui est la nôtre en tant qu'enfant de Dieu à l'égard de notre Messie, de loin de l'Éternel. Là, il s'agit de loin de l'Éternel, il est roi, il sera roi, et nous, nous adorons le Messie, le vrai oint, le roi des rois. Nous devrions faire comme elle preuve de courage et de justice. Elle a précédé, malgré le combat, David. Elle a surtout transgressé, mais avec sagesse, ce que son mari lui aurait interdit, au péril de sa vie, pour sauver justement son mari. Donc courage, et elle a fait justice en donnant ce qui était juste. Ne devrions-nous pas nous aussi faire preuve de courage et de justice ? De courage en allant à contre-courant de ce que le monde nous demande et nous propose, tout aussi difficile que ce soit, et ça devient vraiment difficile de prendre aujourd'hui des positions chrétiennes dans ce monde, parce qu'on n'est très souvent pas politiquement correct. Et on peut mettre bien des phobes derrière beaucoup de mots pour nous caractériser. Justice, en obéissant aux préceptes de Dieu, à la volonté de Dieu, quoi qu'il advienne. Foi, en nous attachant à Dieu et à ses promesses, en étant certains de sa présence, de son existence, de notre salut, même quand tout semble prouver le contraire. Loyauté, en ne nous désolidarisant pas de l'humanité à laquelle nous appartenons. Et j'y tiens ce matin, j'y reviendrai encore tout à l'heure. Loyauté, en annonçant l'Évangile, en vivant l'Évangile dans ce monde, en étant des lumières et le sel de ce monde, en priant pour ce monde, plutôt que de nous en désolidariser, comme je vous le disais tout à l'heure, un peu avec condescendance. Apprenons, chers amis, à l'instar d'Abigaïl, à aimer, à adorer, à servir notre Seigneur en reconnaissance pour toutes ses bontés, pour les splendeurs de sa personne. Et apprenons aussi, sachant à l'instar d'Abigaïl, aimer notre prochain en lui témoignant fidèlement de l'amour, en témoignant de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Quel beau témoignage que celui de cette femme qui révèle si magnifiquement les vertus de l'Église de Jésus-Christ. Car permettez-moi de penser ce matin et de vous dire, chers frères et sœurs, que je crois qu'il est réel, enfin, que je crois que c'est quelques caractéristiques et vertus, peut-être y en a-t-il d'autres que je n'ai pas soulevées ce matin ou relevées, mais caractérisent l'Église de Jésus-Christ. Nous la connaissons, nous voyons bien souvent des tares dans l'Église, dans la nôtre aussi, dans l'Église de Jésus-Christ en général, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de ces vertus qui existent aujourd'hui dans l'Église. Qu'elles continuent d'exister, qu'elles continuent de croître et de grandir, qu'elles soient un témoignage pour notre monde aujourd'hui. Quatrième point. La bienveillance envers le juste. C'est les versets 32 à 35 et les versets 39 à 42. Devant la reconnaissance, devant les multiples bienfaits dont il vient d'être l'objet, devant les prières et les supplications que David vient de recevoir de la part d'Abigaïl, eh bien il change d'avis. Et il assure cette femme qu'il a entendu sa voix. Moi, je trouve magnifique ce verset 35. David prit d'Abigaïl ce qu'elle lui avait apporté et lui dit « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Et alors que le drame devait s'abattre sur cette famille, nous voyons la bienveillance, la grâce de Dieu à l'égard de cette femme qui peut s'en retourner en paix, et David qui venait pour détruire, pour massacrer, retourne lui aussi en paix dans ses collines. Mes amis, quel scénario extraordinaire! Alors que l'impiété, l'injustice, la méchanceté, la folie d'un homme ont déclenché un vent de colère et de juste vengeance de la part d'hommes qui ont été bafoués, la justice, le courage, l'humilité, la droiture, la foi, la loyauté d'une simple femme pieuse vient de ramener la paix en apaisant la colère. Chers amis, cette paix issue d'une action et d'une intercession fidèle nous rappelle que Dieu attend certainement de la part de ses enfants ses vertus que je viens de nommer dans le point précédent, mais aussi l'intercession pour un monde perdu. À l'instar d'Abraham, et là je fais appel encore à vos souvenirs pour vous, je le répète, qui êtes fidèlement tous les jeudis soirs à l'étude biblique. À l'instar d'Abraham qui a prié afin que Sodome soit épargné et que Lot et sa famille soient sauvés. À l'instar de Moïse qui a supplié Dieu d'épargner Israël qui avait transgressé l'alliance. Et maintenant, à l'instar d'Abigaïl qui non seulement s'est engagée de toutes ses forces pour sauver son mari, mais qui a supplié Dieu de sauver et David de ne pas faire ce qui était injuste. C'était pas le moment d'agir, c'était à Dieu d'agir à ce moment-là. Mais, mes amis, nous avons la responsabilité, vraiment, réellement, d'intercéder, tant qu'il en est encore temps, et d'annoncer l'Évangile pour que Dieu fasse grâce à ce monde en ne le traitant pas encore selon sa justice. Le jour viendra, justice sera faite, c'est indéniable. Mais que Dieu prenne encore patience, un peu de temps, afin que beaucoup soient sauvés, afin que tous ceux qu'il veut sauver et qu'il va sauver entrent dans le royaume de Dieu. Alors, je ne saurais trop, une fois de plus ce matin, vous exhorter, nous exhorter à être fidèles dans notre témoignage, dans notre intercession. Et dans ce sens, très concrètement, je vous invite, le samedi 21 janvier, à venir nombreux, à ne pas trouver d'excuses. Vous pouvez faire les courses le vendredi, vous pouvez aller à la piscine le vendredi, le mercredi, tout ce que vous voulez, pour skier un autre jour ou laisser un week-end. À venir le samedi 21 pour le temps de jeûne et de prière. Jeudi pour le temps de jeûne et de prière. Venir vous placer devant Dieu. On priera pour la recherche de nos locaux, vous le savez, mais on ne priera pas que pour ça. Mais aussi pour que Dieu fasse grâce encore dans ce monde. Et pour que Dieu nous accorde des fruits en âme perdue qui soit sauvée. Et je vous invite à prier pour le stand qui annonce l'Évangile deux fois par mois, le samedi. Puis je vous invite à prier pour tout ce qui est fait sur cette terre, là où l'Évangile est annoncé avec puissance. Souvenons-nous que si nous prions et témoignons fidèlement à nos contemporains, nos prières seront reçues. Rappelez-vous de cette réponse de David. « Monte en paix dans ta maison, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Ça ne signifie pas que toutes les personnes pour lesquelles nous prierons seront sauvées. Tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Mais nous avons un devoir de prière et de fidélité dans notre témoignage. Nous avons un devoir. Dieu a déterminé la fin, il sauvera qui il veut, mais il a déterminé les moyens, et nous sommes dans ces moyens, et un de ces moyens, c'est notre prière et notre fidélité dans le témoignage. Alors prions. Je conclue. La fin de ce message est tout aussi magnifique que l'a été la réception de la prière d'Abigaïl par David. Après avoir été fidèle à Dieu, après avoir été fidèle à David et surtout à son mari, voilà que Abigaïl se retrouve subitement veuve. Et pourtant, loin d'être abandonnée dans la solitude et le dénuement matériel et le mépris, comme c'était le lot souvent des veuves à cette époque-là, David, séduit tant par la beauté extérieure que par la beauté intérieure de cette femme, l'envoie chercher pour qu'elle devienne sa femme. Ainsi donc, après avoir été la femme sage, humble et fidèle d'un mari cruel et méchant, elle devient l'épouse du futur grand roi d'Israël. Quelle magnifique allégorie, chers amis, du jour où notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir écrasé Satan, ne laissera pas son Église de côté, seule, dénuée de tout, mais au contraire, viendra la chercher comme son épouse, afin de vivre pour elle pour l'éternité. Ce jour n'est pas encore là, mais il vient, certainement. Chaque jour passé nous en rapproche. En attendant sa venue, notre devoir, être trouvé fidèle, comme Abigaïl. Prions aussi pour que l'Église, et que notre Église locale, et que l'Église de Jésus-Christ en général, soit aussi belle extérieurement, comme l'était Abigaïl, elle devait être certainement une femme magnifique, mais aussi intérieurement, sage, courageuse, juste, humble, loyale et droite, et tout cela pour la gloire de Dieu. Amen.